Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir, Elisabeth.
À tous les cinq. Au sommaire ce soir, une princesse, une candidate et une mini-star du 20h.
Bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition.
Voici les titres.
Officiellement, la guerre se termine.
C'est le dernier soldat américain à quitter l'Afghanistan.
Très vite, des tirs de joie retentissent.
Il est le visage de la résistance afghane.
There is again a young lion of Panjshir.
Une princesse fauchée en pleine jeunesse.
Dans un accident de voiture.
Les Britanniques portent le deuil. Des mots simples et des bouquets par centaines.
Je suis candidate à la présidence de la République.
Carrément, c'est notre Jeanne d'Arc, oui.
Pour restaurer la fierté française.
La droite peut gagner 2022.
Valérie Pécresse, Louane Fou d'Info et Bernard-Henri Lévy sur le plateau de C'est à vous. Mais aussi le top modèle Eva Herzigova et l'acteur césarisé aux 80 millions d'entrées, Cadmerade.
Cadmerade.
Je suis comédien.
Merci, c'est très gentil. Bonsoir.
Je suis le remplaçant pour le théâtre.
Oui, Olivier. Il est là, Olivier, non?
L'escalier, c'est pas trop mon truc.
Eva, trois lettres au top de la mode.
I believe I can fly.
1m80 de sex appeal, une simplicité rafraîchissante.
Faites de la télé? De temps en temps, oui.
I believe I can touch the sky. Merci beaucoup.
Rendez-vous avec eux juste après 20h autour du dîner XXL préparé ce soir, comme tous les soirs de la semaine, par Abdel Alaoui. Bonsoir Bernard-Henri Lévy.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir, alors que depuis hier, pour la première fois depuis 20 ans, il n'y a plus de forces américaines en Afghanistan. Un départ précipité qui vous met en colère. On y revient dans un instant, mais d'abord, Émilie, le récit de ces dernières heures à Kaboul.
Oui, c'est cette photo floue, prise dans la nuit, qui va sans doute rester dans l'histoire pour illustrer le départ des Américains d'Afghanistan le lundi 30 août. Le général-major Chris Donahue, commandant de la 82e division aéroportée américaine, pose le pied à bord d'un avion cargo à l'aéroport de Kaboul. Il est le dernier soldat américain à quitter l'Afghanistan. Point final d'une intervention militaire qui aura duré 20 ans et qui se sera terminée par une séquence particulièrement chaotique depuis que les talibans ont pris Kaboul le 15 août. Quelques heures après cette photo, l'envoyée spéciale de la BBC, Lise Doucet, raconte en direct ce qu'elle voit et surtout ce qu'elle entend dans les rues de Kaboul.
Shit. Listen, look at the tracer fire in the air. The guns are going off. You can see the streams of red lights. You can see behind me the tracer fire going up in the night sky.
Ces tirs, c'est donc le bruit de la victoire des talibans et de la fin de tout espoir pour ceux qui voulaient encore fuir, ceux-là qui devaient penser disposer d'encore 24 heures pour se rendre à l'aéroport de Kaboul et monter à bord d'un avion américain. Mais les soldats américains sont partis, plus tôt que prévu. Ces hommes qui leur ressemblent, qui portent leur uniforme et qui paradent à l'aéroport de Kaboul, désormais, vous allez les voir, sont des talibans.
All right. We're here right now. With the Taliban as they enter into the, what was only minutes ago, it was an American-controlled portion of the military airport. Now, they've taken over.
Maintenant, c'est à eux. Ils ont pris possession de l'aéroport, des armes laissées par les Américains et du pays.
Votre réaction à ces images, Bernard-Henri Lévy?
Une très grande tristesse, parce que j'étais à Kaboul. Et j'étais dans le Panjshir il n'y a pas si longtemps, puisque j'ai filmé tout ça. J'ai filmé des femmes qui croyaient qu'elles avaient l'avenir devant elles, qui avaient une vie à peu près normale.
Qui se sont émancipées ces 20 dernières
émancipées,
années.
Qui montraient leur visage, qui avaient le droit d'aller, qui avaient le droit d'étudier, qui avaient le droit de se mettre du vernis à ongles, et qui savent qu'une chape de plomb est tombée sur leur tête. J'ai vu un studio de télévision comme celui-là, où il y avait de la musique. La musique afghane, avec un peu de musique occidentale, tout ça va être balayé.
C'est fini, on ne peut pas croire les talibans quand ils promettent que le droit des femmes va être respecté.
Mais bien sûr qu'on ne peut pas les croire, Anne-Elisabeth. On ne peut pas les croire parce qu'ils ont déjà fait le contraire. Par exemple, la musique. Ils ont assassiné, il y a quelques jours, quelqu'un que je connais. Il se trouve que je l'ai connu en 2002, quand j'étais l'envoyé spécial de Chirac en Afghanistan. Il s'appelait Monsieur And Arabi, Fawar And Arabi. Il a été exécuté dans des conditions abominables. Pourquoi ? parce qu'il était musicien, là, il y a 10 jours, 15 jours, l'information, les images sont sur mon compte Twitter. Il y a un caricaturiste qui s'appelle Kasha Zvan. C'est un humoriste, c'est quelqu'un qui pourrait dessiner. C'est même pas Charlie Hebdo, il pourrait. Voilà, il a été torturé à mort, lynché à mort, lapidé, on lui a cisaillé les muscles des bras, et ça encore il y a quelques jours. Donc je vois les gens qui font les spéculations, est-ce qu'ils ont changé en 16 ans, est-ce que ceci. Mais on a les faits.
Mais parce que c'est l'accord et parce qu'ils le promettent. Ils émettent des garanties. Et on ne les a jamais autant vus dans les médias et on ne leur a jamais d'ailleurs autant donné la parole.
Oui, on ne les a jamais vus autant dans les médias et on ne les a jamais vus faire autant d'exactions. Il y a un rapport d'Amnesty International commenté par la patronne d'Amnesty qui s'appelle Agnès Callamard, qui est une grande dame. C'est des gens extrêmement sérieux qui ont fait une première liste documentée des exactions qu'ils ont commises dans les derniers jours. Alors, vous croyez vraiment que du jour au lendemain, ils vont pour honorer la parole qu'ils ont donnée à Joe Biden, pour lequel ils n'ont probablement que mépris, croyez qu'ils vont changer? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Kaboul ou dans le Panjshir, ce jeune garçon merveilleux, vaillant, qu'on a entrevu, le jeune Aban Massoud, eux, n'y croient pas. Oui. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'il y ait un Taliban 2.0.
Et l'Europe et l'Occident, elle est réduite à une forme d'impuissance face à cette situation, maintenant que les rapatriements sont terminés, maintenant que les forces américaines sont parties?
Oui, alors, impuissante. Il y a en même temps des choses magnifiques. Il y a eu tous ces derniers jours des mouvements de jeunes vétérans américains qui sont allés en marge des opérations officielles de l'armée américaine chercher des Afghans, des auxiliaires de l'armée, des compagnons d'armes ou des artistes, un par un, dans leur maison à Kaboul, et qui les ont sortis. Donc il y a des initiatives magnifiques. Mais l'Amérique en tant que telle, l'Europe en tant que telle, à part des initiatives, en effet, de ce genre et des ponts aériens, on est ridicule.
100 000 personnes évacuées par les autorités américaines.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Que l'armée américaine reste indéfiniment? Qu'une occupation étrangère ne peut pas s'éterniser pendant des décennies pour garder...
Comment pouvez-vous, dire occupation étrangère? Non.
C'est une forme de...
Mais non, il y avait 2500 soldats américains qui étaient... Certes. C'était une présence américaine. Les Américains et les démocraties sont présentes dans le monde entier. Ils sont en Corée du Sud.
De moins en moins.
Ils sont au Japon. D'accord. Ils sont à Chypre. Qu'est-ce qui empêchait? En effet, c'est l'honneur, et c'est le travail, et c'est l'intérêt d'une grande démocratie, ça s'appelle la géopolitique,
d'être présent. Qu'est-ce qui empêche justement de rester? Le cynisme?
Le cynisme, cette espèce d'accord terrible de mâchoire qui s'est refermé d'étau entre Trump et Biden, parce que tout ça, n'oublions pas, ça a commencé par un accord ahurissant entre Trump et les talibans, en février 2020, à Doha. Les talibans qui sont une organisation terroriste, qui étaient classés comme tels. Donald Trump leur a tendu la main et a signé un accord avec eux sans le gouvernement afghan de l'époque, qui a été tenu à l'écart. Après, les talibans ont dit « mais il faut libérer nos prisonniers, y compris les assassins de Mme Gualar, qui a été assassinée de manière atroce ». Le gouvernement afghan a dit « non, les Américains leur ont forcé la main, l'Occident tout entier ». Attendez. Moi, ce que j'aurais aimé, alors concrètement, rien n'empêchait que ces 2500 soldats américains, qui n'étaient pas une force d'occupation, qui ne faisaient pas la guerre, c'était, comme dans plein d'autres pays du monde, une force de stabilisation. Ça empêchait les talibans de venir lapider les femmes libres. C'était à ça qu'ils servaient les Américains. Et ça coûtait mille fois moins cher que ce que va coûter les réfugiés qui partent, que va coûter le chantage d'Erdogan, à qui on donne déjà 3 milliards d'euros par an. Si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Ça coûtera beaucoup moins cher.
2300 milliards de dollars ont été évalués pour les 20 ans
De présence américaine.
De guerre en un premier temps. Jusqu'en 2014, et depuis 2014, ça n'est plus une guerre. La mission de combat a été arrêtée. Oui, mais évidemment que ça... Mais attendez, la question, elle est de savoir, un, si on a des valeurs et si on y croit, premièrement. Moi, c'est vrai que je pense que les femmes sont les égales des hommes partout dans le monde. Voilà. Et je crois que rien ne justifie qu'on lapide une femme parce qu'elle a levé les yeux sur un homme qui n'était pas son mari. Rien ne justifie ça, premièrement. Mais deuxièmement, la question est de savoir dans quel monde on veut vivre. Aujourd'hui, le monde, ça existe, la géopolitique, ça existe. Est-ce qu'on veut laisser, comme ça se passe aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping, la Turquie néo-ottomane d'Erdogan, la Russie de Poutine, les islamistes du Qatar et les Iraniens de Khamenei? Est-ce qu'on veut les laisser devenir les puissances dominantes de demain? Moi, j'ai des enfants comme vous, sûrement, et des petits-enfants. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans ce monde-là. Donc, évidemment que ça suppose des rapports de force. L'humanité, c'est comme ça, et la modernité encore plus. C'est des rapports de force, c'est des gens qui viennent, une armée d'une démocratie qui a 2000 bonhommes et qui dit « je vous interdis de toucher aux femmes ». Voilà. Et ça a marché. Ça a marché depuis 20 ans.
Un nom, Bernard-Henri Lévy, vous l'avez prononcé tout à l'heure, Massoud, le commandant Massoud était votre ami. Vous l'avez soutenu, défendu, il est mort assassiné, lui le héros de la résistance à l'occupation soviétique. Aujourd'hui, son fils Ahmad a repris le flambeau, qu'il s'agisse des idéaux et il l'espère de l'action. Vous l'avez rencontré, on vous verra dans votre film « Une autre idée du monde » qui sera diffusé le 12 septembre prochain sur France 5 au cours d'une soirée spéciale consacrée à l'Afghanistan.
Le 9 septembre, jour anniversaire de son assassinat, ici même, dans sa maison, où m'attend Ahmad Massoud, son fils, et l'une des plus belles histoires de transmission qu'il m'ait été donné d'écouter.
My relationship to him was not father and son. It was not just like an uncle. He was my father. He was my mentor, and I feel responsibility. I feel that there's something we can do, there's something should be done, that this heavy duty my father was carrying, I can carry it with father.
Est-ce qu'on peut penser, Bernard-Henri Lévy, qu'il y a un espoir de résistance à travers un seul homme? Il n'est pas seul, mais il est quand même très isolé.
D'abord, ce n'est pas un seul homme. Il y a beaucoup de vaillants panchiris qui sont à ses côtés. Ouais. Il a lancé un appel aux autres Afghans qui ont commencé à le rejoindre. Vous avez quelques centaines, peut-être un peu plus, de forces spéciales de l'armée afghane qui ne sont pas des gens du Panjshir, qui ne sont pas des gens du CRU qui l'ont rejoint. Vous savez, il y a aussi des moments de grandeur. Et il a lancé un appel bouleversant en demandant à tous les hommes libres d'Afghanistan de continuer le combat, de le rejoindre. Moi, à mon oreille française, ça me dit évidemment quelque chose, comme à vous tous. Ils l'ont fait.
Donc aujourd'hui.
Pardon ?
La France va l'aider, peut l'aider, doit l'aider.
La France peut l'aider et j'espère qu'elle l'aidera, oui. J'espère qu'elle l'aidera.
Comment ? Mais,
par exemple, il y a une chose que la communauté internationale pourrait faire, c'est déclarer une évidence que la prise de pouvoir par les talibans, elle s'est faite par la violence extrême, et qu'elle est illégale.
Donc on ne discute
et que
pas
non
avec
seulement eux. Elle est illégale, mais qu'elle s'est déjà accompagnée de crimes de guerre d'une extrême gravité et de crimes contre l'humanité. Et peut-être que la légitimité afghane, elle est dans cette montagne du Panjshir, entre les mains de ces 9000 combattants. Qu'est-ce qui empêche en effet des grandes démocraties de dire cela? Oui, moi je serais assez pour ça.
Donc de ne pas reconnaître le gouvernement ou l'État taliban, et de ne pas discuter avec eux, même s'ils peuvent être potentiellement un allié pour éviter que le pays ne devienne une base arrière de groupes terroristes.
Mais une base arrière, ils le sont déjà. Anne-Elisabeth Lemoine, il faut se réveiller, il faut que vos spectateurs le sachent. Il y a quelques jours, j'ai eu un appel d'Afghanistan, d'un lieutenant d'Ahmad Massoud, qui m'a raconté et qui m'a envoyé la preuve. L'un des hauts dirigeants d'Al-Qaïda, l'homme qui s'occupait de la sécurité personnelle de Ben Laden, oui, a été reçu dans une ville de l'Est, dans la province de Nangarhar, avec les honneurs et sous les vivas. Donc arrêtons avec cette histoire qu'il y aurait des querelles de tendance entre Al-Qaïda, l'État islamique et les talibans. C'est faux. Et
rapidement, Ahmed Massoud qui appelle Emmanuel Macron à lui livrer des armes. Oui. Il faut le faire.
Moi, je ne suis pas Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mais en tout cas, bien sûr que si on croit à nos valeurs, si on croit à ce qu'on raconte à longueur de journée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le droit, sur tout, pas, hein, j'entends les gens dire on n'importe pas la démocratie. Personne n'a jamais dit qu'il fallait importer la démocratie. Ça, c'est des sottises de débat. Ce que les gens disent, en effet, ce que beaucoup de gens disent en Europe, et beaucoup de jeunes gens. Moi, je reçois énormément de messages de très jeunes gens qui pensent que quand il y a des gens qui, sous une dictature, appellent au secours, appellent à l'aide, demandent à être encouragés, ben, il faut le faire. Alors, ça passe par de l'humanitaire, mais ça peut passer aussi par des armes, pourquoi pas. Et je précise que ce jeune Massoud, ce jeune lion du Palestine, il se trouve qu'en... Encore une fois, pour moi, ce n'est pas des mots tout ça, c'est des visages. Mmh. Lui, les commandants de son père, ses jeunes commandants à lui, la manière dont tout cela s'est amalgamé en une force de résistance, je l'ai vu, je l'ai filmé, j'ai ces images. Dans le film que vous allez voir sur votre chaîne,
sur France 5,
vous verrez, il y a un jeune homme de 32 ans qui annonce exactement tout ce qui vient de se passer depuis 15 jours, et qui dit comment on peut résister, et qui dit comment l'honneur sera de le refuser. Alors, oui, est-ce qu'on l'accompagne ou pas? Moi, je suis partisan de l'accompagner. Alors après, il y a la logique des États, les monstres froids, je ne sais pas comment ça marche.
En tout cas, c'est une autre idée des mondes que vous défendez ce soir sur le plateau de C'est à vous.
C'est une autre idée, en tout cas, que cette espèce de frilosité de gens claquemurés dans leur égoïsme, etc. Bien sûr, oui. Et de gens qui disent, je lisais encore ce matin, je ne sais où, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire que les talibans ont le droit de disposer des femmes afghanes. Les talibans n'ont pas le droit de disposer des femmes afghanes.
C'est le 12 septembre à 20h55 sur France 5. Vous restez avec nous, Bernard-Henri Lévy, pour continuer à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir, bonsoir Mohamed.
Bonsoir à toutes et à tous.
Story du jour consacrée à une femme au destin extraordinaire, Madeleine Riffaud, résistante, journaliste, amie des artistes et éternelle révoltée.
Babette, il y a des rencontres qui sont des shoots d'espoir. Et je suis venu vous en donner aujourd'hui avec Madeleine Riffaud, 97 ans, et une vie d'héroïne. Une vie de drame où règne la haine de la guerre dès son enfance, où plusieurs de ses amis meurent devant ses yeux, des jeunes écoliers tombés sur un obus de la guerre 14-18.
Mes petits copains, ils étaient des petits voyous. Ils avaient trouvé cet obus. Cela dit, sagement, écoutez, il faut prévenir monsieur le maire. Ah non, alors, c'est nous qui l'avons trouvé. On va taper dessus, on va prendre le cuivre, on achètera des bonbons. Et puis tout d'un coup, voilà ma mère, elle me dit, allez Madeleine, viens manger. On n'avait pas fait 100 mètres, 200 mètres. Les enfants ont sauté avec l'obus. Toute ma vie était comme ça. Je dois avoir un ange quelque part, parce que vraiment, il doit être surmené.
Son histoire bascule de nouveau. En 1940, un officier allemand lui donne un coup de pied aux fesses devant son grand-père mourant. Elle dit qu'elle aurait préféré une balle dans la tête plutôt qu'une humiliation. Elle entre alors en résistance. Le 20 juillet 1944, après l'assassinat de son meilleur ami par un soldat allemand, elle prend les armes.
Je suis partie de Notre-Dame de Paris. C'était mon rendez-vous tous les dimanches avec un nommé Manuel. C'était mon bras droit, si vous voulez. Tu as un vélo? Prête-le-moi. Tu as un revolver? Oui, je suis armé. Donne-le-moi. Alors donc, je suis monté sur le vélo et puis j'ai pédalé au bord de la Seine. Je vois un gardien allemand qui était là tout seul. Il me tournait le dos. J'ai attendu qu'il se retourne. On avait tué mon copain dans le dos. Et moi, je ne voulais pas faire pareil. Il s'est retourné, c'était plus vite que lui, c'est tout.
Quelques minutes après cette vengeance, un collabo français l'écrase en voiture et l'échange contre une somme d'argent. Elle est capturée et restera en prison 5 semaines avant d'être libérée. Une période qu'elle refuse toujours de commenter, d'évoquer aujourd'hui. Pierre, votre père, François Lescure, l'a bien connue à la rédaction de l'Humanité.
Oui, ils travaillaient ensemble parce qu'elle a longtemps collaboré pour le journal. Moi, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois dans le bureau de mon père. C'était au moment des événements contre l'OAS et la manifestation qui avait fait 7 morts à Charonne. Et elle m'a vu, elle a compris que j'étais le fils de François et elle m'a dit, le 13, tu vas pas au lycée, tu iras manifester, tu iras pour les obsèques des morts de Charonne.
Eh bien, pendant près de 50 ans, elle voyage dans le monde comme correspondante de guerre, où elle croise Ho Chi Minh. Elle survit à un attentat de l'OAS en 1962. Elle se relève d'une tuberculose au Congo belge, devient l'une des meilleures amies de Picasso. En 1994, à la demande du couple Aubrac, elle accepte enfin d'évoquer son passé de résistante. 76 ans après la fin de la guerre, c'est aujourd'hui une femme apaisée, mais toujours prête à se révolter contre ceux qui, les samedis après-midi, manifestent contre le pass sanitaire en se disant résistant, en évoquant les camps de la mort ou en portant l'étoile jaune.
Moi, je vais vous dire, les vrais résistants aujourd'hui, c'est les infirmiers, c'est le personnel de santé, débordé au bord du craquage. Eux, les résistants, c'est eux.
Bernard-Henri Lévy, on imagine que, comme Madeleine Riffo, vous êtes indigné par les amalgames que vous pouvez parfois voir le samedi après-midi.
Ah, oui, je suis horrifié. Les étoiles jaunes, les... encore s'oublier... Enfin, j'ai même pas envie de les évoquer. Bien sûr, c'est bête, c'est la preuve d'une ignorance grandissante, mais c'est surtout terrifiant, parce que ça veut dire, un... qu'on minimise, c'est du négationnisme soft, ça veut dire qu'on minimise en effet les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, d'abord, et ça veut dire après qu'en effet, on encourage les gens à se contaminer les uns les autres. Oui, bien sûr, je suis indigné par tout ça, c'est monstrueux.
Et un mot sur le parcours de Madeleine Riffo, son histoire extraordinaire qu'on peut découvrir dans une bande dessinée.
Très grande dame, magnifique parcours, et Dieu lui prête vie, longtemps encore, et heureusement qu'il y a encore aujourd'hui. Ils sont plus très nombreux. Hein. Daniel Cordier est mort, il reste elle. Heureusement qu'ils sont encore là pour porter la flamme.
C'est pour vous, Babette, un joli cadeau.
L'histoire de Madeleine, en bande dessinée aux éditions Dupuis, Madeleine Résistance, ça c'est le premier chapitre, La Rose, déjà découpillée, qui est disponible partout. Merci Mohamed Bouefsi,
à tout à l'heure
pour la Story Média. On évoque désormais la rentrée politique avec une femme qui brigue l'Élysée. Candidate à une éventuelle primaire de la droite, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est ce soir notre invitée. Madame la maire, pardon. Ça n'est pas un geste barrière, ça m'a échappé. Je vous prie de m'excuser.
Et un deuxième.
Voilà.
Enfin, voilà. Ah, pardon.
Non.
Du gel.
Vous non, en avez immédiatement.
La campagne a commencé.
Merci de votre présence ce soir pour évoquer la course à l'Élysée qui débute de façon absolument inédite, Patrick.
Complètement hors norme. D'abord par le nombre de prétendants. Jamais, à 7 mois de l'élection, autant de candidats ne s'étaient bousculés sur la ligne de départ, à droite, à gauche et à l'extrême droite. Ensuite, par le côté baroque de ce qui se passe chez LR, la principale formation de droite, les Républicains. D'ordinaire, un parti décide d'organiser une primaire avant que les candidats ne se déclarent. Là, c'est le contraire. La direction de LR attend de savoir qui postule avant de choisir une méthode pour les départager. Le casting d'abord, le mode d'emploi ensuite. Donc, vous avez des candidats à une primaire dont on ne sait pas si elle aura lieu et selon quelles règles. Un candidat tout court qui, par principe, ne veut pas de la primaire, Xavier Bertrand. Deux ex-postulants qui réclament une primaire mais ne seront pas candidats, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Des responsables LR qui disent « Ah bah si Wauquiez et Retailleau ne sont pas candidats, ça n'a plus de sens de faire une primaire ». Des élus qui se tâtent encore, peut-être David Lisnard, le maire de Cannes, qui « S'il y a une primaire, je pourrais y aller ». Un candidat potentiel, encore marginal, qui espère bien ramasser les morceaux de ce puzzle, Éric Zemmour. Enfin, dernière bizarrerie, même si aucune personnalité ne se détache franchement dans les sondages, encore, les deux favoris de la droite aujourd'hui, Xavier Bertrand et vous-même, Valérie Pécresse, ne sont plus membres de LR, c'est-à-dire que vous sollicitez un parti dont vous avez claqué la porte il y a 2 ans et avec fracas.
Femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti.
C'est un parti cadenassé de l'intérieur, disiez-vous, un mouvement dont une partie des cadres et des militants vous avez sifflé 1 an plus tôt lors d'un conseil national.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 droites. Et nous ne regagnerons que si ces droites savent s'écouter, se parler et se comprendre.
Et ce sont sans doute les mêmes militants qui diront lors d'un congrès dans 3 semaines s'il faut ou non une primaire. Et si c'est oui, est-ce que c'est une garantie d'unité ou de succès? Alors je ne vais pas vous parler de François Fillon et du précédent de 2017, mais de ce que vous disiez lors de la première primaire socialiste de 2011.
Une primaire pour désigner un leader, qui pour l'instant n'émerge pas. Une primaire pour concevoir un projet, qui pour l'instant n'existe pas. Donc je me demande si tout ça, c'est pas une primaire pour rien.
Une primaire pour rien si personne n'émerge. Un vote qui dirait que vous êtes plus présidentiable qu'Éric Ciotti ou Michel Barnier. À quoi bon, Valérie Pécresse?
D'abord, Patrick Cohen, il faut que vous compreniez une chose. Je ne suis pas candidate à la primaire de la droite. Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Ça veut dire que vous iriez sans primaire?
Ça veut dire que je suis candidate pour présenter un projet pour la France. Et si je me présente, c'est parce que justement, dans la grande famille de la droite et du centre, qui ne se résume pas aux Républicains, que j'ai quitté, mais qui existe. Parce que moi, je crois que le clivage droite-gauche structure la vie politique française. Je crois qu'il y a des Français qui aiment plus l'égalité, qui sont de gauche, des Français qui aiment plus la liberté, ils sont de droite. Et je crois que le « en même temps » d'En Marche, en réalité, c'est un objet hybride, c'est un fan club d'Emmanuel Macron, mais ça n'est pas un courant philosophique structurant. Donc je crois qu'il y a une grande famille de la droite et du centre. Je crois que ces valeurs aujourd'hui et ces solutions sont les bonnes pour le pays. Je crois que le pays a besoin d'autorité et je crois que le pays a besoin de plus de liberté et de plus de justice, mais une justice fondée sur le travail, le mérite, l'effort. Donc je crois que nos solutions sont les bonnes. Et d'ailleurs, si vous regardez, Elisabeth, si vous regardez ce que disent les sondages, aujourd'hui, les Français sont effectivement convaincus de cela. Donc, quelle est ma conviction?
On va parler de votre programme et de vos convictions. Mais il faut une primaire en attendant. Hein.
Non, mais attendez, la primaire, c'est un mode de sélection. Moi j'ai choisi de jouer collectif. Je n'appartiens plus.
Mais si elle n'a pas lieu,
mais
vous jouerez solo.
Mais attendez.
Pas collectif.
Je peux juste expliquer un tout petit peu, parce que c'est quand même un peu confusant, là, ce que vous venez de passer pour les...
Situation qui l'est, pardon.
Non, oui, mais justement, je voudrais apporter peut-être un peu de clarté. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que je suis candidate à la présidentielle. Après, il y a énormément d'ambitions qui s'expriment. Moi, je voudrais présenter un projet. Et les Républicains m'ont contacté et m'ont dit, écoutez, si personne n'émerge, on pourrait organiser une primaire. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, Valérie Pécresse, toi, Valérie, qui n'est plus aux Républicains, d'en faire partie? Et moi, j'ai répondu, mais je jouerai collectif. Pourquoi jouer collectif? Parce qu'à un moment... Je veux gagner, et pour gagner, pour faire gagner ma famille politique, il faut qu'à la fin, il n'y en ait plus qu'un ou une. Et pour qu'il n'y en ait plus qu'un ou une, il faut un processus de départage. Alors qu'on l'appelle primaire ou qu'on l'appelle autre chose...
Mais il n'aura pas lieu ce système, puisque
mais qu'est-ce qui est plus démocratique,
de toute façon, ne participera pas à une primaire. Donc...
Mais vous n'en savez rien, Anne-Elisabeth, vous n'êtes pas encore au bureau politique des Républicains, je ne crois pas, en tout cas.
Qu'il pourrait participer à une primaire. Non, je crois que c'est sûr, il ne participera pas à cette primaire.
Mais il peut encore y avoir une primaire organisée par les Républicains, les centristes, libres, et qui pourrait au moins départager toutes les personnes de qualité qui le souhaitent.
Mais les Républicains ont l'air de ne plus vouloir organiser cette primaire, justement parce que Laurent Wauquiez, par exemple, n'y va
pas candidat.
Mais c'est intéressant quand vous dites les Républicains, parce que justement, il y a eu un sondage dimanche, on a demandé aux Français, parce que là aussi, Patrick Cohen, vous avez dit, les militants, pas les militants qui votent dans une primaire, c'est tous ceux qui se reconnaissent...
Non, je parlais du congrès, congrès du 25 septembre de LR, alors, qui va décider s'il y aura ou non une primaire.
Laissez-moi donc finir ma réponse. Dimanche, il y a eu un sondage où on a dit aux Français de la droite et du centre. Et on leur a dit, écoutez, est-ce que vous aimeriez choisir votre candidat? Et 66%, ils ont dit oui. Et c'est assez logique. Hein. Moi, je serais à leur place, j'aimerais choisir mon candidat. J'aimerais pas qu'on me dise, finalement, c'est dans un conclave politique que les Républicains, parti auquel je n'appartiens plus aujourd'hui, même si je me revendique de droite, ou Bertrand, qui n'est plus non plus dedans, vont être choisis dans un conclave. Non, c'est pas dans un conclave, c'est au grand jour. Et c'est idée contre idée, projet contre projet. Pourquoi je me présente? C'est parce que je pense que j'ai des idées et je défends un certain nombre de sujets que les autres à droite ne défendent pas. Quand je parle d'écologie, quand je parle d'intégration, quand je parle de la famille, quand je parle aussi de tous ces sujets d'éducation, qui sont une priorité absolue. Moi, je défends une nation éducative pour relever l'école. Tous ces sujets-là, je n'entends pas la droite en parler. Donc, c'est pour ça que je me suis levée. C'est
des
pour
idées,
les défendre.
Des idées, une personnalité. Mi-août, vous vous êtes définie dans une interview accordée au Point comme étant 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher, 0/3 Pécresse. Plus rien de Valérie Pécresse.
Non, mais je vous explique. Cette phrase était un peu une boutade. C'était pour rappeler aux Français qui ont un peu du mal quand même avec le leadership au féminin, c'était pour leur rappeler que dans les deux plus grandes démocraties européennes, à part la France bien sûr, les deux personnes qui avaient
eu la plus grande longévité au pouvoir et qui avait sans doute eu le pouvoir le plus transformant sur leur pays s'appelait Madame Merkel et Madame Thatcher. Et Madame Merkel est connue pour chercher les consensus. Madame Thatcher est connue pour être très ferme. Donc j'ai dit, je suis deux tiers consensus, un tiers fermeté. Mais évidemment, je suis 100% moi-même. Et le projet que je vais apporter, c'est un projet pour la France de 2030 qui s'appuie sur les problèmes de notre pays qui sont masqués aujourd'hui par la crise Covid, sur une situation du pays qui est extrêmement dramatique et à laquelle je veux apporter des solutions pour les 10 ans qui viennent.
Vous avez dit, on l'a entendu tout à l'heure avant de partir de l'air, qu'il y avait deux droites. À écouter les meetings, les déclarations de ce week-end, ça ne semble pas avoir beaucoup changé. Éric Zemmour et Éric Ciotti.
Ma campagne, elle sera, et mon projet, il sera à droite. Tout simplement avec un objectif clair, que la France reste la France. Aujourd'hui, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour son avenir.
Est-ce que nos enfants vivront encore dans une civilisation française? La réponse est non si on continue et si Macron est réélu. On refera la France. On refera la France avec des Français qui veulent être Français. Les autres n'ont rien à faire ici.
Qu'avez-vous de commun avec cette droite-là et comment comptez-vous faire, si c'est votre intention, pour la rassembler?
Alors d'abord, Éric Zemmour, pour moi, Éric Ciotti, c'est pas du tout la même chose. Pour une bonne et simple raison, c'est parce que Éric Zemmour, lui, envisage des alliances entre l'extrême droite et la droite. Sur le fond, ça change tout. Excusez-moi, monsieur Cohen, ça change absolument tout. Imaginez qu'on puisse faire une alliance avec l'extrême droite, pour moi, ça n'est pas être de droite. C'est déjà avoir un pied dans l'extrême droite. En revanche, Éric Ciotti, lui...
Avoir des idées d'extrême droite, mais sans faire d'alliance avec l'extrême droite, ça passe.
Ce n'est pas les idées de l'extrême droite, contrairement à ce que vous dites. Ce sont les idées d'une droite qui n'est pas la mienne, qui est une droite plus à droite, c'est vrai. Mais je l'ai toujours dit, il faut rassembler. Il faut rassembler, effectivement, une droite qui est plus souverainiste, qui est une droite qui est plus forte, et une droite qui est plus ouverte, qui est plus pro-européenne, qui est la mienne, qui est plus écologiste aussi, plus féministe.
Même si vous avez promis davantage de fermeté contre l'immigration illégale, expulser les clandestins, c'est possible, avez-vous écrit dans une tribune parue fin août à Valeurs Actuelles.
Oui, parce que je crois que l'extrême droite, elle se nourrit de l'impuissance publique. L'impuissance publique, c'est dans notre pays d'avoir des lois et de ne pas les appliquer. Et quand on est en situation irrégulière sur le sol français et qu'on a ce qu'on appelle une ordonnance de retour, une OQTF, une ordonnance de quitter le territoire français, eh bien cette ordonnance, elle doit être exécutée. Sinon, c'est le signe de l'impuissance de l'État, de l'impuissance de nos forces à faire respecter la loi. En Allemagne, qui n'est pas un pays antidémocratique, eh bien on ramène dans les pays d'origine 33 fois plus que nous, trois fois plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, très simple, ils prennent l'agence Frontex, qui est une agence européenne qui a été créée pour ça. Frontex met à disposition des avions, met à disposition des escortes et ramène les migrants en situation irrégulière chez eux. Pourquoi il faut le faire? Il faut le faire parce que ça envoie un signal extrêmement nocif à tout le monde, toute la population, si la loi est bafouée. Si la loi est bafouée, alors à ce moment-là, tout le monde peut l'enfreindre et c'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle.
Un mot sur votre proposition phare ou choc, la hausse de 10% des salaires nets, compensée pour les entreprises par une baisse des cotisations salariales. Le SMIC passerait ainsi au-dessus de 1200 euros. C'est de l'argent magique?
Absolument pas. Nous avons fait le choix depuis des décennies du chômage de masse. Pourquoi nous avons fait ce choix? Parce que nous avons assis toute notre fiscalité sur le travail. Ça veut dire que si vous travaillez, ben, par exemple si vous êtes au SMIC, vous touchez 1230 euros et à la fin ça coûte 1640 euros à votre entreprise. Donc vous voyez bien, alors même que le SMIC, c'est l'endroit où on a mis le plus d'allègements de charges. Et quand plus les salaires montent, plus c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la fin, vos revenus vont être essentiellement des allocations. C'est l'État qui va vous donner énormément d'allocations pour vous permettre de vivre.
L'allocation que vous voulez diminuer, Patrick, ou dégraisser pour financer cette mesure.
Je finis. Quelle est la situation aujourd'hui européenne? Pénurie de main-d'œuvre généralisée. Parce qu'on ne trouve plus personne pour prendre des emplois. Et ces emplois pénibles, ces emplois de première ligne, ceux qu'on a beaucoup valorisés pendant la crise Covid, ceux de nos infirmiers, ceux de nos agents d'entretien, ceux de nos aides-soignantes, tous ces emplois-là, ils ne sont pas assez payés. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'augmenter d'augmenter les salaires nets et que quand on prend un emploi, ce soit de son travail qu'on vive. C'est une question de dignité. Alors oui, ça suppose de changer le financement de notre protection sociale. Je vous rassure, hein, c'est pas très nouveau, on l'a déjà fait avec les allègements Fillon. Quand on a fait les 35 heures, on a déjà allégé les cotisations sociales. Et il faut les faire payer par un autre impôt. Il faut faire aussi des économies en même temps pour permettre de faire cette hausse. Elle est tout à fait possible. Ça coûte 25 milliards jusqu'à 2,5 SMIC. Ça veut dire que la grande majorité des Français pourraient voir leur salaire augmenter de 10%. Mais évidemment, ça suppose de complètement tout repenser.
Un mot, Bernard-Henri Lévy ?
Non, j'écoute avec beaucoup d'attention. Et non, mais mon avis de l'extérieur, si je puis dire, c'est qu'en effet, le problème, ce n'est pas la primaire. Tout le monde parle de la primaire. Le problème, c'est les deux droites. C'est ça la vraie question.
Réconciliable ou pas réconciliable. Voilà.
Et à mon avis, si je peux me permettre...
C'est une mission impossible.
La question, est-ce qu'elle est de réconcilier les deux droites ou est-ce qu'elle est de faire en sorte que la droite libérale, ouverte, universaliste, l'emporte sur l'autre, sur celle que représentent quelques-uns de ceux qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la droite xénophobe, la droite cruelle, la droite nationaliste fermée. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est important parce que vous savez... Toute l'histoire du XXe siècle, ça, c'est une loi. Chaque fois que ce qu'on appelait autrefois le fascisme a menacé, bon, vieux mot, enfin, qui a empêché le fascisme de passer ? La gauche criait « le fascisme ne passera pas ». Mais ceux qui ont parfois empêché le fascisme de passer, c'est la droite.
Mais bien sûr.
C'est la droite libérale, c'est la
Pour
droite
conclure,
universaliste,
Valérie
etc.
Pécresse, mais...
Et ceux qui ont fait que le fascisme est passé, c'est la droite lorsqu'elle s'est couchée. Donc cette affaire... Moi, c'est pas moi, j'irai pas voter une primaire de droite. C'est pas ma famille politique, mettons, si tant est que ça a encore un sens. Mais elle est très importante.
Il faut que Valérie Pécresse puisse vous répondre.
Mais,
en quelques mots,
Bernard
Valérie Pécresse,
a totalement raison.
De Mathieu Béliard.
Une droite qui affirme ses valeurs, qui est ferme sur le régalien, qui réaffirme les valeurs d'autorité, qui ne se cache pas derrière son petit doigt et qui fait son boulot, ce qu'on a fait nous dans nos régions, c'est une droite qui fait baisser le Rassemblement national. On l'a fait baisser. On l'a divisé par deux. Moi, j'ai renvoyé le jeune poulain de Madame Le Pen dans son paddock.
Jordan Bardella.
Bah oui, c'est pas
bah oui, bah oui. Donc c'est possible. On continue. Vous restez avec nous tous les deux. On continue à parler de l'actualité. C'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir, vous restez, vous êtes notre coin.
Mathieu Béliard pour le 5 sur 5 au sommaire ce soir.
Dérapage, commentaires politiques, traits d'humour, quand les forces de l'ordre se lâchent sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas toujours très bien auprès de leur hiérarchie. Les Didi disparaissaient il y a 24 ans, jour pour jour, à Paris. Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il faudra compter avec Diana cette année. Et puis un concours culinaire pour le moins original en Serbie à la fin du 5 sur 5. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché.
Des policiers et des gendarmes rappelés à l'ordre par leur hiérarchie.
Ils sont fonctionnaires ou même militaires, épinglés pour leur comportement sur les réseaux sociaux. Le Parisien affirmait ce matin que les signalements d'internautes se multiplient, les sanctions et procédures disciplinaires aussi. Et c'est une question délicate. Est-ce qu'on peut draguer sur Tinder en utilisant l'uniforme ? Est-ce qu'on peut diffuser des photos d'armes de service sur Instagram ? Commenter des décisions politiques sur Twitter ? Regardez Zoubir, ce policier parisien qui s'est illustré sur le réseau social TikTok.
Je n'ai jamais dit que j'étais keuf. Mais vous avez fait cette idée tout seul parce que vous m'avez vu à l'enterrement de vie de jeune fille de votre voisine. Il y en a marre des clichés.
On a la piqûre, la tête dure, c'est pas le net qui va nous. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé.
Je suis ni flic ni pédé.
Pour leur visage. Si je distribue, c'est vers les centraux. Big Boss comme Alessandro.
Alors Zoubir, ce dernier a été révoqué. Il faut dire qu'on a pu le voir aussi dans une émission de télé-réalité, Les Princes de l'Amour sur W9. Vous l'avez suivi, Patrick. Certains sont simplement mis à pied. Alors, c'est l'image de ces institutions qui est en jeu. Évidemment, pour être respecté, il faut être respectable, rappelle-t-on aux agents. Alors, ce matin, j'ai appelé Maître Laurent-Franck Liénard. On le présente parfois comme l'avocat des flics. Il reconnaît qu'il y a une nouvelle génération qui a du mal à connaître ses limites sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé si on est encore policier en dehors du service, si ce sont des citoyens qui ont le droit de s'exprimer, voire même de s'amuser.
On a une loi qui est la loi Le Porse de 1983 qui considère que le policier est susceptible d'engager sa responsabilité déontologique dans tous les actes de sa vie, y compris dans sa vie intime. Donc le policier qui enfreindrait des règles de bienséance ou des règles de déontologie pourrait se le voir reprocher même s'il est en maillot de bain sur la plage.
Alors comment est-ce que vous les défendez ?
Je les défends en rappelant que ce sont des hommes. Que ce sont des hommes sous contrainte et que si la soupape ne lâche pas, à un moment, on va avoir quoi ? On va avoir des dépressions, on va avoir des passages à l'acte suicidaire ? Est-ce que c'est ça que l'on veut ? Non, il faut comprendre l'homme, il faut comprendre que s'il ne peut pas se lâcher, s'il n'a pas de soupape, ce gars, c'est une bombe à retardement.
Valérie Pécresse, vous y voyez un simple dérapage, un phénomène plus grave ? Vous entendez Maître Liénard qui estime qu'ils ont besoin de décompresser ?
D'une manière générale, les réseaux sociaux, c'est quand même un peu l'amplificateur du déconomètre. C'est-à-dire qu'on a toujours... Enfin, il faut vraiment, vraiment se maîtriser. Et il faut l'apprendre d'ailleurs dès le plus jeune âge dans les écoles. Nous, on commence à travailler là-dessus dans les lycées pour expliquer... là, on parle des policiers, mais on pourrait parler aussi de tout ce qui est nude, les jeunes filles qui échangent des images sexy avec leurs petits copains et qui ne se rendent pas compte qu'après, elles pourront être utilisées contre elles. Donc, il y a un vrai bon usage des réseaux sociaux. Et évidemment, un policier, il doit rester digne de son uniforme, même quand il ne le porte pas. Et là, en l'occurrence, il le portait en plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un mélange des genres. Je comprends qu'il était sanctionné. Mais il y a un vrai usage des réseaux sociaux qu'il va falloir apprivoiser, maîtriser. Et il faut que la jeune génération est en train de se le prendre un peu en boomerang. Je pense notamment à tous ceux qui ont mis des images de fiesta, etc., qui après se mettent à chercher un boulot. Et puis on les googlise, et puis on trouve des images d'eux en train de faire des fiestas. Bah, pour l'employeur, c'est pas terrible. Donc on a vraiment un apprentissage à faire.
L'Afghanistan et les Afghans en Europe dans le 5 sur 5 ce soir.
Oui, alors ce soir, un témoin de ce qu'a connu le pays ces dernières décennies, c'est aussi une image pour le moins insolite. Sayed Saadat, il a quitté son pays il y a un an. Aujourd'hui, il est livreur de repas à vélo à Leipzig, au sud de Berlin. Mais ce qui est insolite, c'est que Sayed Saadat, eh bien, c'est l'ancien ministre de la Communication, ministre de l'Informatique et de la Communication, membre du gouvernement. Il a démissionné, indigné par la corruption à Kaboul. Écoutez-le, ce nouveau quotidien de livreur à vélo. Écoutez-le en parler avec beaucoup de philosophie.
For me, this is exciting job. I explore around the area. I go around. I see countryside. I see different places. And I cycle 1200 kilometers per month. That's a good amount of cycling. Not all the immigrants are here just to take the money from the government. So there are a lot of immigrants. They do hard work. They give to the country tax and also they do positive things to the country.
Alors pour rappel simplement, pour ce qui est des politiques sur place, le président Ashraf Ghani a fui son pays le 15 août, je cite, pour lui éviter un bain de sang. Il a été accueilli par les Émirats Arabes Unis.
On est aujourd'hui le 31 août, l'anniversaire de la mort de Lady Di.
À Paris, il y a 24 ans, la sortie du Ritz, la voiture poursuivie par des paparazzi et l'accident dans le tunnel du pont de l'Alma. On se souvient tous de l'accident, du drame, de l'onde de choc mondiale. Ce matin, Iban Raïs et Audrey Payas se sont rendus sur les lieux de l'accident. Écoutez ces touristes britanniques pour qui la mémoire de celle qu'on appelait la princesse des cœurs reste vive.
People felt a lot of empathy towards her. It changed the relationship that people had with the royal family. Previously, they felt very much like the establishment, and I think she broke through that wall. That's why her legacy is so important.
She's just such an icon, such like a fashion icon. Everyone has such a positive, fond memory of her. It's been quite inspirational, I think, for a lot of people, and I think maybe that's why it's, you know, people still care about it 24 years later.
Je voudrais juste préciser que ces deux derniers Britanniques que l'on voit sont nés après la mort de Lady Diana, ça vous dit l'importance. Alors si je vous en parle ce soir, c'est que si vous aimez les têtes couronnées ou juste la princesse de Galles, vous allez être servi cette année dans un peu plus de deux mois la sortie du biopic Spencer qui racontera sa séparation d'avec le prince Charles. On surfe déjà sur l'immense succès de la série The Crown. La saison 5 arrive à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il va falloir choisir. Maintenant, il va falloir se positionner. Petit sondage autour de la table. Qui incarne le mieux Lady Diana, à vos yeux? On a Kristen Stewart au centre qui va jouer dans le film. Et puis à gauche, Emma Corrin, saison 4 de The Crown, et Elizabeth Debicki, saison 5 de The Crown. Je vous laisse choisir.
Kristen Stewart, je n'avais même pas reconnue en Diana. Et moi, j'ai vu The Crown, donc là, ça y est, je suis complètement influencée par Emma Corrin.
On a des fans de The Crown autour de la table. Alors Netflix hein, pour la série The Crown et Prime Video pour le biopic. Sur les plateformes, ce sera l'année Lady Di.
Quelques images de la planète, on s'intéresse au Koweït ce soir.
On est en train de vider le plus grand cimetière de pneus au monde. Une décharge de 25 000 mètres carrés en plein désert. 40 millions de pneus en plein soleil, un site en fait en proie au risque d'incendie. 3 incendies géants ces dernières années, une situation aggravée par le réchauffement climatique. Regardez ce panache de fumée. visible depuis l'espace, sans l'odeur de caoutchouc brûlé. Évidemment, vous voyez ces images satellites, je vous laisse imaginer. Il a fallu 44 000 voyages en camion pour libérer cet espace qui va bientôt accueillir une nouvelle ville sortie du sable. Rien que ça, les pneus doivent être découpés ou transformés pour recyclage.
Une page biodiversité ce soir.
Vous avez peur des souris, Babette, des
oui,
rats?
Oui, de tout. Ouais.
Je vais vous présenter les capybaras. Ces bestioles font la une des chaînes d'infos argentines. Les capybaras sont en train d'envahir un quartier huppé de Buenos Aires. Alors, petite fiche technique avant qu'on appelle le dératiseur. Il s'agit du plus gros rongeur au monde. Il peut peser jusqu'à 60 kilos. Même votre, 60 kilos, même votre berger allemand n'y fera rien. Regardez, à scooter, vous n'y échapperez pas. Mais s'attaquant précisément à une zone ultra chic, certains en Argentine y voient un symbole de retour de la lutte des classes. Si, si. Je vous laisse réécrire
il s'attaque aux pneus aussi, j'ai l'impression.
Les pneus, les scooters.
Il a attaqué le pneu du scooter, si vous remettez l'image.
Je vous laisse réécrire les fables de La Fontaine. Hein. Le lion, le rat des villes, rat des champs. Aujourd'hui, le capybara de Buenos Aires.
Ça se mange pas.
Non, je crois pas que ça se mange le capybara.
Non, mais... ça tentait Valérie Pécresse, un petit barbecue de capybara.
Mais pour les aventuriers gastronomiques que j'ai autour de la table, et puis puisque vous allez bientôt dîner, je vous propose un petit concours culinaire champêtre qui va peut-être indisposer Abdel en cuisine. En Serbie, la 17e édition du championnat des cuisines traditionnelles de testicules. Liste. Alors attention, taureau, mouton, sanglier, autruche même. J'ai appris des choses aujourd'hui. En ragoût, en saucisse, avec des pâtes ou même sur des pizzas. Je ne sais pas si on fait vraiment honneur à leur culture ce soir, mais voilà en tout cas une petite idée de voyage authentique.
Dans l'actualité, oui, pardon.
Les Balkans, oui.
Vous avez déjà classé, vous avez déjà dégusté ce festival?
Jamais. Non.
Vous avez dû goûter des choses originales.
Je les ai plutôt vus à l'époque en train de rêver de faire des saucisses de Bosniaque et des brochettes de leurs victimes. En 92-93, c'était autre chose que des concours culinaires. Ils faisaient des concours de snipers sur les collines de Sarajevo. Ah ben oui.
Dans l'actualité depuis lundi, c'est les 30 km/h à Paris, ce qui inspire une question à Pierre.
Ben oui, évidemment. On laisse la France et la présidentielle, on revient à l'Île-de-France et la circulation et pas la civilisation. Vous étiez pour la réduction de la vitesse à Paris à 30 km/h. Vous avez été consulté?
D'abord, ça ne me concerne pas, hein, puisque c'est une décision de police municipale.
Ça concerne beaucoup de Franciliens.
Oui, mais ça concerne effectivement beaucoup de Franciliens. Je ne crois pas qu'en termes de pollution, ça change grand-chose. Je pense que c'est plus une volonté de la maire de Paris de concilier les modes de transport et notamment de rendre un petit peu moins dangereux le vélo et la trottinette dans Paris, parce qu'il y a des conflits d'usage. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tellement le 30 km/h dans Paris, c'est vraiment la volonté d'Anne Hidalgo de piétonniser le centre de Paris, ce qu'elle a tout à fait le droit de faire, ce qui va dans le sens de beaucoup d'autres villes, mais en fermant en même temps une voie sur le périphérique qu'elle veut dédier à des bus. Alors, essayer d'aller prendre un bus sur la voie de gauche du périphérique, je pense que c'est pas... Voilà, en plus, il y a un tramway que la région est en train de construire au-dessus, donc je pense que c'est plus utile de prendre le tramway qui est au-dessus. Donc je pense que cette idée est une idée qui, alors là, pour le coup, provoquerait la thrombose de l'Île-de-France. Donc j'organiserais un référendum régional pour demander aux Franciliens, qui n'ont évidemment pas été consultés sur cette belle idée, alors qu'ils sont 80% à emprunter le périphérique tous les jours, demander à tous les Parisiens et les Franciliens s'ils sont prêts ou pas à ce qu'on supprime une voie pour la circulation générale sur le périphérique. Je pense que je pense que Madame Hidalgo doit entendre tous ceux qui utilisent le périphérique et pas que les Parisiens.
Évidemment.
Que ceux qui payent leurs impôts à Paris et qui votent à Paris.
Anne Hidalgo qui pourrait être une rivale dans la course à l'Élysée.
Absolument. Alors, nous sommes toutes les deux écologistes, mais nous n'avons pas du tout la même vision de l'écologie. Moi, j'essaye de faire changer les moteurs des véhicules parce que je sais que des millions de Français ont besoin de prendre leur voiture tous les jours. Les familles ont besoin de se transporter, les personnes âgées aussi, ceux qui vont faire leurs courses. Ouais. Et que malheureusement, à part à Paris, dans les villages, on ne mettra pas le métro.
Un mot, cher Bernard-Henri Lévy.
Croisade, je lisais là, croisade contre les émissions de gaz à effet de serre, croisade contre le réchauffement climatique, moi je trouve ça très bien. On a tellement nié tout ça, on s'est tellement enfermé dans un climato-scepticisme que essayer ça...
À condition que ce soit les bonnes mesures.
et que ça réduise effectivement la pollution.
Oui, mais je crois, enfin, je suis pas un expert, mais il me semble que c'est pas une mauvaise mesure. Puis on verra. Ça, c'est pas des mesures irréversibles. Hein. Voilà. Ce qui est irréversible, c'est les hectares entiers de bois brûlés dans le Var, c'est les incendies en Californie. Ça, c'est irréversible.
Oui, mais l'écologie des résultats, c'est l'écologie qui fait baisser la pollution.
Voilà.
C'est pas celle qui emmerde tout le monde.
Et celle-là, elle emmerde tout le monde. Si je résume votre pensée.
Vous avez un peu dépassé ma pensée. Mais
je ne l'ai pas corrigée, à peine.
Pas sur cette mesure-là, mais l'idée de dire qu'on ne puisse plus du tout circuler en voiture dans la région est absolument ubuesque. Et ça n'est pas possible.
Un droit de réponse pour terminer, Mathieu.
Oui, Babette, vous avez eu une attention des plus délicates pour la première de la saison hier. Célébrer l'anniversaire de Simone, qui fêtait ses 100 ans hier.
C'est une fidèle téléspectatrice de C'est à vous. Elle fête ses 100 ans aujourd'hui. Donc Michel, il faut lui citer 100 ans de votre part. Simone, 100 ans aujourd'hui. Regardez.
C'est qui Simone? C'est toi? Ma chère Simone, 100 ans, c'est bien. Après, c'est trop.
Oh non! Non, on sera là pour les gens.
Je plaisante, Simone.
Alors, très drôle, Michel Sardou, évidemment, mais tellement moins mignon que Simone, parce que nous l'avons recontacté aujourd'hui, 100 ans et un jour. Réponse à Michel Sardou.
Bonjour, Anne-Elisabeth. Je voulais vraiment vous remercier pour cette surprise. C'était adorable. Moi qui regarde fréquemment C'est à vous, parler de moi pour mon anniversaire, c'était incroyable. Merci Michel Sardou. Je tâcherai de ne pas ressembler à la vieille de votre chanson. Merci à tout le monde, merci à tous, 100 fois merci. Merci, merci.
Oh, elle est adorable.
Elle est adorable.
Elle est adorable, Simone.
Elle a de la répartie, hein.
Exactement.
Wow.
Exactement, elle a de la répartie. On entend la vieille de Michel Sardou à laquelle Simone va s'efforcer de ne pas répondre. On se quitte en musique, Valérie Beckrasse. Merci d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci, cher Bernard-Henri Lévy. Une autre idée du monde. C'est sur France 5 le 12 septembre à 20h55. Et je rappelle votre livre sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Dans un instant, Camérade, Eva Herzigova seront sur notre plateau. Quelque chose à dire, Bertrand Chameroy?
Oui, Babette, bonsoir tout d'abord. Et puis, j'ai des nouvelles de Jean-Marie Le Pen. Il pète la forme.
Comment dirais-je le...
Mais oui, que veut-il dire par réponse dans quelques instants.
À tout de suite pour les actualités de Bertrand, vu la story média de Mohamed et le dîner de C'est à vous préparé par Abdel Alaoui. Au menu, Abdel Alaoui.
Pastilla au menu.
À tout de suite pour le dîner de C'est à vous. On vous attend. Merci beaucoup.